Bonjour à toutes et à tous, Pascal Sim pour ce journal d'ONU Info. Au menu de ce journal, réunion du Conseil de sécurité sur le Yémen. ONU Info a rencontré des victimes du terrorisme dans le bassin du lac Tchad. La MONUSCO sensibilise au lavage des mains en République démocratique du Congo. Et en dossier, nous reviendrons sur la lutte contre le sida en République centrafricaine. Le Conseil de sécurité a discuté mardi de la situation au Yémen, un pays déchiré par plusieurs années de conflits qui opposent les rebelles Houthis qui contrôlent la capitale Sanaa au nord du pays et les forces pro-gouvernementales soutenues par une coalition militaire dirigée par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. L'envoyé spécial des Nations Unies pour le Yémen, Martin Griffiths, a prévenu le Conseil que la fragmentation du Yémen était devenue une menace plus forte et plus urgente que jamais. Jérôme Bernard nous en dit plus.
Martin Griffiths s'est dit en particulier inquiet des affrontements qui ont éclaté début août à Aden, la capitale provisoire du gouvernement yéménite, entre deux factions habituellement alliées contre les rebelles Houthis. Des combattants séparatistes ont pris pendant quelques jours le contrôle du palais présidentiel et la violence a entraîné la mort de dizaines de civils et fait des centaines de blessés. L'envoyé de l'ONU s'est dit alarmé par cette violence et s'est félicité des efforts de la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite pour restaurer le calme et pour organiser à Jeddah un dialogue entre les deux factions. Selon Martin Griffiths, il est essentiel que cette réunion ait lieu dans un avenir très proche pour éviter une nouvelle détérioration de la situation. Il estime que ces affrontements à Aden rendent les efforts de médiation de l'ONU dans le cadre du processus de paix yéménite plus urgent que jamais. Selon lui, la mise en œuvre de l'accord de Stockholm conclu en décembre 2018 entre le gouvernement yéménite et les rebelles Houthis sur un cessez-le-feu dans le gouvernorat d'Odeida a été importante sur le plan politique et a eu des effets bénéfiques tangibles sur le terrain. Mais l'envoyé de l'ONU estime que cela ne peut être une condition préalable à la réalisation de la paix dans tout le Yémen. Le gouvernement yéménite et les rebelles Houthis continue de lui assurer de leur volonté forte de trouver une solution politique. Mais Martin Griffiths s'est dit frustré par la lenteur des progrès.
Les Nations Unies célèbrent le 21 août la Journée internationale du souvenir, en hommage aux victimes du terrorisme. À cette occasion, ONU Info a réalisé une série de reportages, notamment au Tchad, l'un des quatre pays bordant le lac Tchad. En 2015, l'île de Ngomirondoumou, située sur le lac où vivent quelques 6000 habitants, a été attaquée par des extrémistes armés se revendiquant du groupe terroriste Boko Haram. Une attaque sanglante sur laquelle revient Youssou Mbodou Mbabi, chef traditionnel du canton du Bol au Tchad.
Quand ils sont arrivés en 2015, les hommes de Boko Haram ont envahi le village et ont forcé les gens, les hommes, les femmes et les jeunes, à les rejoindre. Ainsi, entre 200 et 300 personnes, des jeunes, donc des femmes et même des adultes, ont été forcés de rejoindre Boko Haram sur le territoire nigérian. Quand ils sont arrivés, ils ont envahi, ils ont même brûlé des bâtiments et des récoltes et ils ont tué le bétail. Donc les gens ont été obligés de fuir et d'abandonner le village. Et Boko Haram a massacré 3 à 5 personnes dans ce village. Et parmi les 200 à 300 personnes que Boko Haram a pris lorsqu'il a envahi le village, il y a celles qui ont été forcées de s'enrôler, mais qui ont réussi à s'échapper et à rentrer au village. Ce qui a fait partir les gens, c'est leur ignorance. Les gens ne sont pas allés à l'école. Et on leur a dit, on leur a fait croire qu'ils obtiendraient beaucoup d'argent. Alors ils sont partis avec Boko Haram et quand ils ont réalisé qu'ils avaient été trompés, ils ont décidé de s'enfuir et de revenir au village.
En République démocratique du Congo, la MONUSCO a inauguré vendredi dernier une station de lavage des mains devant l'entrée de son bureau à Kindu, la capitale de la province de Maniema. Une infrastructure qui participe à la campagne d'assainissement promue par la mission de l'ONU et vise surtout à se prémunir contre les risques de propagation de maladies telles que le virus Ebola. Louise Barber est chef du bureau de la MONUSCO à Kindu. Elle explique pourquoi le personnel de l'ONU et tous les visiteurs de son bureau doivent respecter ses dispositions de santé publique.
On a fait une petite cérémonie pour lancer notre nouvelle station de lavage à main à l'entrée du bureau de la MONUSCO Kindu, juste à côté de l'aéroport, ici au Maniema. Comme tout le pays, nous sommes conscients de la lutte contre Ebola. Nos cœurs restent avec les communautés affectées et avec les travailleurs du système de santé, ainsi que nos collègues du système des Nations Unies et nos collègues des ONG qui travaillent chaque jour de lutter contre l'Ebola. Là, c'est c'est notre geste pour prévenir la maladie ici à Kindu. On aimerait accueillir nos visiteurs avec notre propre station lavage à main. Donc, c'est un devoir pour nous, en fait, de fournir cette facilité à l'entrée avec deux robinets, le tank rempli de l'eau chlorée. C'est vraiment une installation professionnelle qui va certainement contribuer à la prévention des maladies. Et nous gardons tous en bonne santé.
Retour sur la lutte contre le sida en République centrafricaine et sur l'appui apporté aux personnes vivant avec le VIH. Pour en parler, Boris Ngouagouni, de notre radio partenaire Gira FM à Bangui, a tendu son micro au directeur de l'ONU Sida dans le pays, le docteur Patrick Eba. Ce dernier fait d'abord le point sur le nombre de personnes infectées et les régions les plus touchées en RCA.
Aujourd'hui, on estime qu'il y a 110 000 personnes qui sont séropositives en République centrafricaine. La prévalence du VIH dans ce pays est d'environ 4%, c'est-à-dire qu'il y a 4% de la population centrafricaine qui vit avec le VIH. En Afrique centrale, cela représente la deuxième prévalence la plus élevée, après la Guinée équatoriale. Ce qui veut dire que nous avons une véritable problématique de VIH en Centrafrique. Mais cette prévalence est répartie de façon inégale à travers le pays. À Bangui, on a une prévalence qui se situe autour de 6%. Si vous allez dans le Haut-Mbomou, la prévalence est d'environ 12%. Dans les villes telles que Obo, Zemio, la prévalence du VIH est particulièrement élevée. Si vous allez dans la zone de Bouar, la prévalence baisse également. Et donc, la prévalence du VIH est inégalement répartie à travers le territoire. Mais aussi, je tiens à ajouter que la prévalence du VIH est aussi inégalement répartie en fonction des populations. Aujourd'hui, les femmes sont les plus touchées par l'épidémie du VIH. Mais en plus des femmes, il y a des populations spécifiques, notamment les professionnels de sexe, mais aussi les hommes en uniforme. En Centrafrique, il est estimé que la prévalence du VIH chez les hommes en uniforme constitue le double de la prévalence nationale.
Docteur Patrick Eba, comment se fait la lutte? Quelles sont les actions entreprises contre le VIH-Sida en RCA?
Vous savez, la vision de l'ONU-Sida est de, premièrement, travailler pour qu'il n'y ait plus de transmission du VIH. Et cette vision-là, nous, on la caractérise en disant zéro niveau d'infection à VIH. Notre deuxième vision, c'est d'atteindre zéro décès lié au VIH. C'est-à-dire qu'il faut que toutes les personnes séropositives aient accès au traitement. Et troisièmement, nous avons une vision de zéro discrimination.
Ah, donc c'est le sens des 3-0.
Des 3-0, absolument. La matrice autour de laquelle nous agissons. Pour atteindre zéro décès lié à VIH, ici en Centrafrique, en 2017, le gouvernement, avec l'appui de l'ONU-SIDA, de l'OMS, de l'UNICEF et des autres partenaires, nous avons lancé un plan pour accélérer l'accès au traitement antirétroviral en Centrafrique. Imaginez qu'en 2017, nous avions dans ce pays moins de 25 000 personnes sous ARV. Aujourd'hui, on en est à 42 000. On a connu une accélération importante du nombre de personnes sous traitement. Aujourd'hui, la discrimination est un véritable problème. Nous essayons d'agir contre la discrimination, notamment en donnant la parole aux associations de personnes vivant avec le VIH pour qu'elles partagent leur vécu en faisant de la sensibilisation, mais aussi en travaillant à la réduction de la discrimination dans les centres de santé. Nous avons un projet avec le RECAPEV, le réseau centrafricain des personnes vivant avec le VIH, pour contribuer à la réduction de la discrimination. Le 3 mars dernier, nous avons lancé une plateforme nationale contre la discrimination.
Est-ce que ces antirétroviraux sont-ils gratuits ou pas? Et si c'est gratuit, quelles sont les conditions pour une personne vivant avec le VIH-Sida?
Vous savez, aujourd'hui, grâce à la solidarité internationale et à la générosité de nos partenaires, aujourd'hui en Centrafrique, l'accès aux antirétroviraux est gratuit. Zéro franc. Pour les antirétroviraux, zéro franc. Parce que nous avons au niveau mondial un mécanisme qui s'appelle le Fonds mondial de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Nous sommes parvenus presque à doubler le nombre de personnes sous ARV en 2 ans et demi. Mais pour continuer cette accélération, il nous faut plus d'argent. Pour pouvoir mettre plus de personnes sous traitement, il nous faut plus d'argent.
Un des problèmes lorsqu'on parle de la lutte contre le VIH-Sida en RCA est soit le détournement ou la rupture d'ARV. Quelle est la stratégie face à cette situation?
Vous savez, récemment, le ministre de la Santé a dénoncé le marchandage de médicaments. Cette pratique qui consiste à vendre des médicaments qui, en principe, devaient être mis à disposition des patients. Et donc, il y a une réelle prise de conscience que cette situation est inacceptable et doit s'arrêter. Des sanctions ont été prévues et des actions sont en train d'être prises pour mettre fin à cette problématique de fraude, de vol et de circuits parallèles de distribution et de vente d'ARV. C'est une bonne chose, que nous soutenons d'ailleurs. Mais nous savons que cette lutte doit s'intensifier, doit continuer. Mais aussi, elle appelle à la responsabilisation de tous les acteurs de la chaîne pharmaceutique en République centrafricaine pour que de telles pratiques s'arrêtent.
Fin de ce journal d'ONU Info, à retrouver sur notre page Internet et sur nos comptes Twitter, Facebook et SoundCloud. Merci de votre fidélité et à très bientôt.